ne sont pas encore prêts pour comprendre ça.
Voici Marceau le midi.
Ah, Pascal CV travaille extrêmement fort. Vous avez des choses à me dire. C'est le 418-971-101. Si tu penses quoi que ce soit sur la route, vous êtes nos yeux, nos oreilles. Merci de le faire d'ailleurs. Ah, est-ce qu'il est là?
Il est
au bout du fil, l'excellent Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Salut Nicolas.
Hey, bonjour tout le monde, ça va bien?
Ça va bien. T'as-tu écouté le match des recrues de la Ligue nationale, des espoirs, devrais-je dire, en fin de semaine, entre les Maple Leafs Toronto et le Canadien de Montréal?
Non, tu me prends au dépourvu, j'ai carrément manqué ça.
Lane Hudson, tout un joueur de hockey. On espère qu'il va être chez le Canadien cette année. Le problème, c'est qu'il pèse à peu près 150 livres, 160 livres. Il est pas gros, il se fait brosser, Nick.
Ben, écoute, sinon, il est à peine plus gros que moi. Là. C'est assez surprenant. Puis, es-tu grand aussi ou c'est vraiment juste... s'il fait 6 pieds 4, c'est sûr que là, ça devient un petit peu une autre histoire, là, mais on va lui souhaiter bonne chance.
Il est pas très grand non plus, mais je veux dire, pour tous ceux qui ont vu le match des espoirs en fin de semaine, on l'avait vu jouer chez le Canadien. Je pense qu'il a joué 3 matchs chez le Canadien de Montréal en fin de saison l'an passé. On voyait qu'il y avait beaucoup d'étincelles là, à chaque fois qu'il touchait à la rondelle. Puis là, ben, ça a été la même affaire pour le match des espoirs. J'ai juste hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, une saison complète de 82 matchs dans la Ligue nationale. Il paye 162 livres sur 5 et 10, Nick.
Colin, OK, quand même. À moins que je me trompe, puis en étant, je ramène ça loin en arrière, là, mais Saint-Louis, lui, il me semble, il faisait combien en termes de grandeur? C'était-tu 5 et 9, 5 et 10?
Je pense qu'il devait être aux alentours de 5 et 7, 5 et 8, 5 et 9 dans ce secteur-là. Peut-être que je pourrais vérifier, mais le problème, est, en fait, Saint-Louis, sa force, c'était vraiment ses jambes. Il y avait un gros bassin.
Oui. Non, c'est effectivement. En tout cas, parce que n'en reste que la grandeur au hockey, des fois, on serait surpris à quel point ça c'est finalement un détail. Là. Des fois, c'est bon quand t'es, on va dire, quelqu'un qui ramasse les autres dans la glace ou un boon ou quoi de même. Mais ouais, dans le cas des nouvelles recrues, on va espérer là, que je sois capable de compenser à quelque part puis qu'il y a effectivement là, les mêmes forces que Saint-Louis ou autre.
Mais, juste se sauver.
J'ai carrément manqué ça.
Juste se sauver des goons.
Hey, il ne sauve pas.
Il est agile.
Non, Saint-Louis était à 5 et 8, 176, mais c'est ça, il avait des bonnes grosses jambes puis il faisait de la grosse protection de rondelles. Fait qu'il était capable de ne pas se faire brasser. Mais Lane Hudson, c'est un défenseur. Sérieux, il s'est fait rentrer dedans, c'est hier. Puis tu vois que quand il s'est fait rentrer dedans, il a fait à peu près 3-4 pieds dans les airs avant d'atterrir. Fait que ça va être une année assez particulière pour lui, mais c'est tout un joueur de hockey. Si t'as la chance de le voir évoluer dans les prochains jours, prochaines semaines, retiens ça, toi qui es un grand connaisseur de hockey, Lane Hudson, c'est sûr qu'on le voit cette année avec les Canadiens. Peut-être un jour la Coupe Stanley. Bon, je m'arrête là. Hey, Nick.
Oui.
Youri Chassin, y a-tu raison ou y a tort? Est-ce qu'il a bien fait de quitter la Coalition Avenir Québec? Est-ce que tous les points qu'il a apportés, est-ce que c'était des points qui étaient corrects ou, selon la Fédération canadienne des contribuables, il était dans l'erreur?
Ben en fait, poser la question, c'est y répondre. J'ai comme eu l'impression que quand il a fait sa conférence de presse puis qu'il a publié avant ça sa lettre ouverte dans le Journal de Montréal, j'avais comme l'impression que il s'était basé sur le mémoire prébudgétaire qu'on avait écrit la dernière fois, puis il a fait effectivement la Fédération des bonnes idées. Puis c'est pour ça que je sors aujourd'hui de la CAQ. Mais il en reste que, au final, oui, il avait bel et bien raison, ne serait-ce que pour les points qu'il a nommés. Est-ce qu'il avait raison de quitter la CAQ? Ça, seule l'histoire nous le dira. D'après moi, c'était une idée que ça faisait quelque temps qu'il mijotait parce que, veux pas, quand il a fait sa sortie, c'était les points qu'il a nommés, ou du moins, je ne sais pas les accusations, là, mais ce qu'il a mis sur la table pour dire pourquoi est-ce qu'il quittait, ou du moins, c'était quoi ses nombreuses déceptions par rapport à la CAQ, ça revient pas mal à ce qui a été présenté dans le dernier budget en mars dernier. Donc, clairement que ça faisait un petit moment que ça se préparait. La question qu'on a un déficit record de 11 milliards, le fait que le gouvernement a engagé constamment plus de fonctionnaires, qu'on a même créé des agences supplémentaires pour finalement pas être en mesure d'améliorer la qualité des services de nos citoyens. Donc, tout ça a été observé, tout ça est observable de part et d'autre. Et c'est ce qui faisait partie, je pourrais dire, de son plaidoyer pour effectivement dénoncer la situation et surtout dénoncer le changement d'orientation de la CAQ. Parce que bon, on ne pourra jamais assez le répéter, mais la CAQ de 2018 et la CAQ de 2024, c'est deux partis politiques complètement différents. Ne serait-ce qu'on regarde l'agenda du gouvernement actuel et précédent. Donc, de se dire qu'effectivement, quelqu'un comme Youri Chassin, qui a quand même toute une feuille de route en tant qu'économiste, où faut aussi mentionner, il a été longtemps à l'Institut économique de Montréal. Même en 2018, quand il a été présenté dans Saint-Jérôme, il y a plusieurs personnalités médiatiques, même syndicalistes, qui avait des craintes que Legault le nomme comme ministre de l'économie parce qu'il s'était lui-même positionné comme étant un ténor plus des idées libérales économiquement. Entre autres, il était en faveur, ou du moins, il avait écrit en faveur de la privatisation de la SAQ. Il avait déjà écrit par rapport à la question de la gestion de l'offre qu'on connaît dans le milieu agroalimentaire. Donc, c'est des positions qu'il avait tenues qui détonnaient avec le modèle québécois auquel on est habitué. Et là, ben, finalement, il a été tassé de côté. On sait qu'il n'a pas été ministre de l'économie. Et même quand le super ministre Fitzgibbon finalement a été démissionné, je constate que Yuri n'a pas fait partie des différents candidats là, pour le remplacer. Est-ce que c'est cette raison-là précisément qui a été la goutte de trop? Je serais surpris, mais la sortie a quand même fait mal à la CAQ parce que, de un, comme je vous dis, il y a eu le départ du super ministre Fitzgibbon, que dans un contexte où est-ce qu'on parle d'énergie, où est-ce qu'on a Nordvolt qui bat de l'aile, ça paraît pas bien pour la CAQ. Et là, on a ensuite quelqu'un qui a longtemps défendu les thèses d'une nouvelle approche sur le modèle québécois, qui a amené vraiment une nouvelle force politique à l'intérieur même de la CAQ, parce que jusqu'à maintenant, on voit la CAQ comme étant une coalition de libéraux et de péquistes, mais Yuri Chassin représentait plutôt la sorte de droite libérale qui venait de l'ADQ puis qui espérait éventuellement emmener les idées qui changeraient un peu le modèle québécois. On essaierait de réduire un peu la bureaucratie, de baisser les impôts, ce genre de choses-là.
Mais la CAQ a tellement changé, Nicolas. Là. Souviens-toi, quand la CAQ était dans l'opposition, François Legault disait « Les surplus, ce que les Hydro-Québec a pris aux Québécois, ça devrait être remis aux Québécois. » Je pense que c'était quoi, un point quelques milliards de dollars en raison là, d'une façon de calculer les tarifs d'Hydro-Québec. On avait surchargé les Québécois. Et finalement, quand il était arrivé au pouvoir, bien, il avait donné qu'une partie de ce montant-là qui était supposé redonner aux Québécois. Donc, tu sais, Hydro-Québec nous avait volé à ce moment-là. Puis le reste, bien, cet argent-là, on ne sait pas où elle est passée. François Legault parlait beaucoup à la droite économique quand il était dans l'opposition. Puis même quand il était aux élections pour prendre le pouvoir, parlait de réduction de taille de l'État, parlait d'une gestion rigoureuse de l'argent des Québécois. Il voulait être le plus possible très près des services comme la santé, l'éducation et tout ça. Finalement, après 6 ans, là, on ne voit pas qu'il y a grand-chose qui a changé depuis que François Legault est en place, si ce n'est qu'on sort de là plus amoché, plus endetté, avec des infrastructures qui peinent à rester debout. Et quand Yuri Chassin a dit « les Québécois n'en ont pas pour leur argent », ou du moins, ils payent encore plus et ils ne voient pas la différence, il était très « target ».
Non, effectivement. Puis c'est, je pense que c'était le point le plus important de sa conférence de presse. Effectivement, les Québécois n'ont pas pour leur argent. C'est aussi vrai il y a 6 ans, c'est aussi vrai aujourd'hui. Puis on dirait que la tendance s'inscrit pour que ça reste la même chose jusqu'à la fin de la décennie et au-delà. Puis ça peut expliquer aussi d'une certaine manière, je dirais pas une perte de confiance, là, mais comme on pourrait dire un certain pessimisme de plus en plus important au Québec par rapport à nos institutions et à notre capacité de les réformer. Parce que bon, des fois on se dit que la meilleure manière de changer les choses, d'aller en politique, de rejoindre des coalitions. Parce que la coalition Avenir Québec, à la base, ça, c'est une formation politique qui est supposée justement refléter les aspirations de différents axes politiques qui se rassemblent dans une seule coalition. Finalement, on voit que c'est pas mal la continuité avec tout ce à quoi on a déjà été habitué auparavant. Donc, les forces du changement, qu'elles soient de droite ou de gauche, ou peu importe, au final, on voit qu'elles ont de la difficulté à percer, à ne serait-ce qu'à travers la ligne de parti, qu'elles ont de la difficulté à se faire entendre. Et finalement, quand on voit que finalement, on a un parti qui, pour reprendre là, ce que dit Éric Duhaime, le chef du Parti conservateur, il n'y a pas si longtemps, ils mettent leur flasher à droite puis ils tournent à gauche une fois les élections complétées. C'est un peu ce qui s'est passé. Mais c'est au-delà de tout ça, c'est la question qu'il n'y a vraiment eu aucun coup de barre pour vraiment changer le modèle québécois, alors que c'était exactement ça qui était promis au départ. Un gouvernement plus proche des gens, plus transparent. C'est juste la notion de transparence. On pourra parler longtemps de tous ces documents caviardés que la CAQ a livrés à l'opposition, aux journalistes au cours des dernières années.
J'avais jamais vu ça. Honnêtement, moi, autant caviardé, je n'avais jamais vu ça en 10 ans, là, pour avoir fait beaucoup de demandes d'accès à l'information. Puis je trouvais ça bon qu'on le mette même dans l'actualité parce que ça éveillait des consciences puis ça quand même dépeint ce qu'ils vivaient puis ce qu'ils tentaient de faire, en fait, les journalistes auprès et les partis d'opposition pour les citoyens. Mais est-ce une question d'incompétence? Ou c'est simplement, à un moment donné, on verra plus la lumière au bout du tunnel parce que personne va arriver officiellement à changer la structure gouvernementale qu'on a mise sur pied pendant des décennies?
Bien, c'est une bonne question parce que c'est vrai que là, en ce moment, le monde doit se poser la question, bien, comment est-ce qu'on fait pour amener des réformes? Comment est-ce qu'on fait pour que les gens qui veulent vraiment amener des changements dans le modèle québécois comme tel, ne serait-ce que par le politique, comment est-ce qu'ils font, considérant qu'on a vu différents acteurs à droite et à gauche au cours des dernières années qui espéraient amener ce changement-là, puis ils sont cognés à un mur. Je ne vais pas faire un comparatif boiteux, ne serait-ce qu'entre Youri Chassin, qui représente peut-être plus la droite économique, versus Catherine Dorion, qui représentait plutôt la gauche populiste, mais on voit que différents acteurs ont essayé, et à chaque fois, ils se cognent à un mur, mais là, dans le cas d'Youri Chassin, c'est comme deux fois pire, parce que c'est quand même quelqu'un qui est au gouvernement. Ça faisait plusieurs années qu'il était là. Il y avait quand même une bonne proximité avec l'ensemble de la coalition de Québec, que ce soit l'aile jeunesse ou les ministres. Puis donc, de voir que lui-même n'a pas été en mesure d'aller plus loin que ça, c'est sûr que ça nous rend pessimistes. D'un autre côté, pour la question, justement, la question de l'accès à l'information, de toutes ces autres notions-là comme telles, oui, bon, c'est sûr que ça reflète à quel point l'information est aussi accessible ou pas aussi accessible que devrait l'être. Surtout que nous, en tant que contribuables, le minimum, c'est d'avoir accès à ces informations-là qu'on demande, par exemple. Je donne un exemple flagrant, là, par exemple, le fameux nouveau toit pour le stade olympique qui va coûter $1 milliard aux contribuables. De se dire qu'on envoie une demande d'accès à une information puis on nous répond que le document est sous-stellé pour les 25 prochaines années, c'est complètement ridicule. Puis finalement, on ne saura jamais, ou du moins pas avant une génération, s'il y a eu un plan économique qui a été livré avant même qu'on engage ce genre de dépenses-là. Fait que ça, c'est un exemple parmi tant d'autres pour dire que le manque de transparence, ça empêche les citoyens et les contribuables à obtenir des comptes et à s'assurer que les politiciens soient imputables. Et ça, ça fait partie, je pense, des nombreux problèmes qu'on observe dans l'État québécois présentement. Puis donc, de voir justement Youri Chassin faire cette sortie-là, comme ça a été le cas la semaine dernière, oui, ça me donne un peu raison pour les différentes personnes, les différents groupes comme le nôtre qui critiquent le gouvernement sur les questions de finances publiques et autres. Mais d'un autre côté, ça peut un peu rendre pessimiste le citoyen moyen qui espère avoir du changement à court terme puis qui observe des gens quitter la politique justement parce que ce changement-là est un peu impossible.
Nick, en deux minutes, parce qu'on doit se quitter bientôt, grosse découverte là, de la part de la Fédération canadienne des contribuables. On nous a dit que la conquête de l'espace, ça pouvait être sexiste.
Oui, c'est une drôle de découverte qu'on a faite, mais effectivement, c'est exclusif de la Fédération canadienne des contribuables. Grosso modo, notre directrice de l'Alberta, Chris Sims, elle a fait une demande d'accès à l'information auprès du département de la Défense nationale pour découvrir qu'on a dépensé 32 500 $ pour un rapport qui a été produit par par une organisation là, dont le nom m'échappe sur le coup. Ça s'appelle là, le Project Plowshares. Et eux autres, ils ont produit un document qui s'appelle Hidden Harms, ou le Human Insecurity in Outer Space, ou l'insécurité humaine dans l'espace. Et ce rapport-là, dans le fond, fait une évaluation des mots et des concepts utilisés par l'armée canadienne, entre autres, pour parler de l'exploration spatiale. Et là, on est tombé dans toutes les dérives de l'intersectionnalisme poussé, où est-ce que finalement le rapport décrit que l'armée canadienne a une approche colonialiste, voire raciste, quand c'est le temps de parler de l'espace, parce qu'apparemment, qu'on parle d'envoyer des hommes sur la Lune, ou qu'on envoie ne serait-ce que des gens pour parler de colonisation éventuelle d'autres astres, peu importe tout ce qui est évalué dans les différents rapports par rapport à l'exploration de l'espace, ben tout ça aurait été mis comme étant des termes qui sont à la fois provocateurs, qui symbolisent la suprématie blanche et autres. Donc, comme quoi est-ce que finalement l'espace est raciste et sexiste? Bref, ce rapport-là a été commandé par l'armée canadienne, ça a été payé par les contribuables. C'était juste 32 500 $, on va me dire. Mais c'est pas le premier rapport qu'on paye apparemment, puisqu'on a découvert qu'on a versé pas loin de 155 000 $ pour d'autres rapports du même type via la Défense nationale pour se faire dire que soit l'espace est raciste, soit l'exploration de l'espace est sexiste, ou sinon que de parler de colonisation d'une quelconque manière, c'est une dérive grave qui est condamnable. Donc, on voit que l'argent des contribuables est encore très bien pris au sérieux dans la Défense nationale comme au niveau fédéral at large. Mais effectivement, c'est un rapport, c'est une demande d'accès à l'information dont on a obtenu les résultats il y a quelques temps. Et honnêtement, c'est aberrant, mais c'est un exemple parmi tant d'autres de ce qu'on pourrait trouver au fédéral.
On s'en sortira jamais, mon ami. Mais il y a de l'espoir, puisque la Colombie-Britannique annonce que si le gouvernement fédéral retire l'obligation des provinces pour ce qui est de la taxe carbone, peut-être que le Québec pourrait-tu s'en sortir, ou on va être la dernière province avec une taxe carbone?
Ça va vraiment dépendre de Legault l'année prochaine, rendu là, parce que ça commence à être tout un enjeu, en fait, parce que pour le monde qui s'en doute, bon, la Colombie-Britannique, je mélange des fois avec la Californie, bref, la Colombie-Britannique, eux autres, ils ont mis en place une première taxe carbone en 2008, puis le Québec a suivi en 2009. Jusque-là, tout allait bien. Ensuite, un marché de carbone a été mis sur place. Et, bon, en 2015, le fédéral, lui, a décidé de mettre en place une taxe carbone qui est imposée à toutes les provinces. C'est-à-dire que si votre province n'impose pas une taxe carbone, le fédéral va le faire à sa place. Donc, c'est pour ça qu'au Québec, on ne paye pas la taxe carbone fédérale. Ceci étant dit, la Colombie-Britannique est dans la même situation que nous, en fait. Mais il y a tellement eu de polarisation à l'entour de la taxe carbone que le premier ministre David Eby, qui est, dans le fond, le premier ministre de la Colombie-Britannique et qui est un néo-démocrate, a lui-même dit que, écoute, si on a l'opportunité avec ce gouvernement-ci ou le prochain de retirer la taxe sur le carbone ou de se soustraire de cette obligation qui est actuellement en cours, ben on va retirer la taxe carbone qui est appliquée en Colombie-Britannique, ce qui est une première parce que, je suis arrêté, comme je dis, c'était aussi la première province à l'imposer, cette fameuse taxe carbone, avant même que Trudeau arrive même en politique, en fait. Donc, de se dire que finalement, il pourrait rester que le Québec avec une tarification sur le carbone à post-2025, puisque on sait très bien, avec si on regarde les différents sondages actuellement, s'il y a des élections fédérales qui ont lieu demain, c'est Pierre Poilievre qui est élu, puis lui, il l'a dit lui-même, vous ne verrez jamais un gouvernement qui a supprimé aussi rapidement une taxe carbone, donc clairement que ça va se faire assez rapidement. La Colombie-Britannique suivrait, si on se base sur l'état des choses, et donc, il ne reste plus que le Québec. Est-ce que François Legault va faire une sortie prochainement? Est-ce qu'il va nous sortir de la taxe carbone si on a l'opportunité de le faire une fois les élections fédérales complétées l'année prochaine? On verra. Mais là, la pression va tranquillement monter. Puis jusqu'à maintenant, la taxe carbone, c'est un sujet dont on parlait peu au Québec parce qu'on se fait souvent convaincre par certains commentateurs, certains politiques, qu'on n'en paye pas une. C'est totalement faux. On en paye une au Québec. Mais là, de se dire que ça va être un sujet de plus en plus polarisant, possiblement, ben c'est un combat qu'on aura donc remporté d'une certaine manière puisqu'on en parlait très peu, la taxe carbone, et finalement, ça va devenir un sujet très pivot pour les prochaines élections fédérales.
Dans 10 ans, on va être encore la seule province en Amérique du Nord, j'inclus les États-Unis, à avoir une taxe carbone.
Ben, il y aura juste la Californie, en fait. C'est
la Californie et nous.
Aux États-Unis, donc, avec qui on partage notre fameux marché de carbone.
Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables, un gros merci.
C'est toujours un plaisir. On se reparle la semaine prochaine.
Bye-bye, Nicolas Gagnon. Si vous voulez en savoir plus sur la Fédération canadienne des contribuables, assez simple, c'est contribuable.ca. On s'en va rejoindre le député fédéral de Charlebourg-Haute-Saint-Charles, qui est Pierre Paulus, qui va nous parler du bilan du caucus. On appelle ça un caucus précessionnel. C'était hier. Monsieur Paulus, bonjour.
Bonjour, bonjour Abdel.
Merci d'être là. Comment ça se passe, la rentrée, là? Est-ce que les gros dossiers arrivent ou là, on y va-tu en élection? On y va pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est excitant,
c'est
ça!
C'est la question qui anime tout le monde, là, avec le NPD qui a déchiré son entente. Là, on vient de retomber en mode gouvernement minoritaire, c'est-à-dire que là, maintenant, à tout moment, lorsqu'un vote sur une motion, un vote de confiance ou des crédits budgétaires, les trois partis d'opposition s'unissent ensemble, on fait tomber le gouvernement.
Mais il reste le bloc?
Oui, le bloc, ben c'est ça. Le bloc actuellement veut monnayer son appui. Ça fait 2 ans et demi que M. Blanchette vote avec les libéraux. On va voter sur tous les crédits budgétaires. Augmenter de 500 milliards le fardeau des Canadiens en supportant Justin Trudeau. Là, a de l'air à vouloir trouver des façons de continuer à monnayer son appui, mais en même temps, je pense que, en tout cas, de notre côté, c'est sûr que nous, on veut une élection. Moi, toutes les fins de semaine à Charlebourg, les gens me rencontrent, me demandent, M. Paulus, c'est quand qu'on dégage M. Trudeau là, puis qu'on change le gouvernement? Fait que ça va être, c'est dans les prochaines semaines, il va y avoir beaucoup de tensions par rapport à tout ça, parce que l'élément clé, c'est de va avoir une motion ou une journée d'opposition au Parlement. Il va y avoir un vote. Là, c'est là qu'on va voir comment les partis vont s'aligner suite à cette motion-là.
Les avantages, les désavantages dans l'élection rapidement, selon vous et en tant que parti d'opposition en ce moment au fédéral?
Ben, l'avantage, pour nous, écoutez, ça fait 9 ans qu'on a subi Justin Trudeau. Des fois, je dis, les gens ont la mémoire courte, mais quand on remonte dans le temps, on part de 2015, puis qu'on additionne, là, on a doublé la dette du pays, on a 50 milliards par année qui s'en vont en intérêt sur la dette. Tous les scandales qu'il y a eu autour de M. Trudeau, on peut faire une longue liste, là.
Vous sentez que ça va vraiment vous propulser cette fois-là?
Ben écoutez, si on regarde au niveau national, c'est clair, les gens en veulent plus. M. Trudeau savent ce qu'il a fait comme comme décision qui est une catastrophe pour l'économie canadienne. On voit qu'actuellement, la productivité au Canada, il n'y a rien qui fonctionne. Moi, j'ai plusieurs rencontres souvent avec des corporations dans l'aérospatial, dans n'importe quel domaine. Puis les gens me disent, ça marche pas, M. Wallace, au Canada, ça marche pas. Là. Fait que ça, c'est juste une étape. Mais pour les citoyens aussi, regardez comment que le fardeau, les hypothèques, l'inflation, comment que ça coûte cher à tout le monde. Ben ça, toutes les dépenses du gouvernement fédéral appuyées par le Bloc québécois, entre autres, et l'NPD, ont fait en sorte qu'on a créé une situation qui est intenable. Puis, en fin de semaine, justement, pour la rentrée, on avait des économistes qui sont venus faire des présentations au Parti conservateur. Puis c'est catastrophique. Il y a des choses qu'on voit même pas, même nous, qu'on n'avait même pas réalisé encore, des éléments économiques qui s'en viennent, qui vont faire mal. Là.
Ça vous ferait-tu peur vraiment d'être au pouvoir puis d'avoir à ramasser les pots cassés que vous êtes en train d'énumérer en nombre?
C'est sûr que quand on regarde ça, on est là puis on se regarde, on se dit « Wow! Quelle catastrophe qu'on va ramasser comme gouvernement! » Mais en même temps, c'est pour ça qu'on est prêt à y aller immédiatement. Faut pas attendre. On a assez attendu, là, c'est assez. Faut changer de gouvernement. Puis Justin Trudeau, on sait que ça marche pas. Puis même qu'il serait remplacé par n'importe qui d'autre, toute l'équipe ministérielle, je veux dire, c'est ce cabinet-là qui ont voté les différents crédits qui nous ont amenés dans le rouge comme ça. Donc, on n'a plus confiance en personne de ce gouvernement-là. Puis maintenant, ben, si oui, ça va être dur, mais on est prêt à le faire. Puis on va le faire dans l'intérêt des Canadiens et des Québécois.
Monsieur Paulus, les partiels d'aujourd'hui, est-ce qu'ils pourraient forcer Justin Trudeau à quitter l'aventure? Parce qu'il y en a une dans la salle, de ce que je comprends. Actuellement, dans la salle, c'est le parti. C'est le Bloc québécois qui serait en avance, si on en croit les sondages qu'il y avait sur Québec 125. Et dans le coin de Winnipeg, là, ce serait Justin Trudeau et son équipe qui pourraient passer. Est-ce que...
Non, pas du tout. À Winnipeg, c'est un comté qui appartient au NPD depuis plus de 30 ans. Puis actuellement, on est vraiment en compétition avec le NPD.
C'est là, Winnipeg Sud? Est-ce que c'est Winnipeg Sud?
Non, ça s'appelle pas Strathcona, mais j'ai oublié le nom, là.
Parce que vous voyez, je t'allais voir ce matin.
Manitoba. Okay. Ce comté-là, on est très, très compétitif. Là, on ne sait pas actuellement qui va gagner, que ce soit l'NPD ou nous autres.
Donc, Justin Trudeau pourrait perdre ces deux comtés-là aujourd'hui?
Bien, déjà là, ils ne l'ont pas au Manitoba. Puis le comté de Montréal, le comté de Verdun, la salle Verdun, ça, c'est un comté libéral, rouge foncé depuis des années. Même Paul Martin a été député de ce comté-là. Puis là, c'est David Lametti qui était le député libéral, qui était ministre de la Justice, qui est parti en février dernier. De ce comté-là, actuellement, il est en danger. Fait que là, on pense que ce soit le Bloc ou NPD qui a une chance de gagner actuellement.
Ouais, de ce que je voyais, c'était le Bloc puis le Parti libéral qui était côte à côte, mais le Bloc avait 47%
très, très
des chances de passer.
Oui,
c'est
ça.
C'est exact. Ça. Donc, ça pourrait précipiter le départ de Justin Trudeau.
Oui, mais il a dit en entrevue en fin de semaine que même s'il perdait ce comté-là, qu'il restait quand même. Fait que ça, c'est son choix. Nous, de notre côté, regardez qu'il reste, qu'il parte, ça ne change rien. Ce qu'on veut, c'est une élection fédérale, là, ça presse. Puis on espère que le Bloc québécois et l'NPD vont finir par avoir une colonne, comme on dit, puis accepter le verdict des citoyens qui veulent l'élection, qui veulent qu'on change le gouvernement.
Monsieur Paulus, je dois vous laisser dans les prochaines minutes, mais juste avant, pouvez-vous nous démêler l'histoire des pensions des députés fédéraux, du fait que Justin Trudeau veut s'accrocher au pouvoir, que le Bloc québécois aussi veut que Justin Trudeau ne quitte pas parce qu'on veut les pensions pour certains députés? C'est quoi cette histoire-là?
Ça, c'est un projet de loi qui a été déposé au printemps, qui fait en sorte qu'il demande de retarder la date, parce que la date qui est fixe pour l'élection est en le 21 octobre 2025, si je ne me trompe pas. Puis là, le projet de loi demandait de repousser la date, mais en prétextant qu'il y avait une fête indienne, la fête du Diwali. Fait qu'en disant, on peut pas voter le 21, fait qu'on va remettre ça d'une semaine parce qu'il y a une fête trop importante. Mais ça, c'est de la poudre aux yeux, parce qu'au bout de la ligne, c'est que tu as énormément de députés libéraux et du Bloc québécois qui ont été élus en 2019. Et si l'élection a lieu le 21, et s'il y a des députés qui perdent leur élection, il manquait juste une journée pour avoir le droit à leur pension. Fait qu'ils perdraient la pension de député. Donc, en passant d'une semaine, ben, s'ils perdent leur élection, c'est pas grave parce que leur saison était faite. Donc, c'est l'idée en arrière de ce plan de match-là, de ce projet de loi-là, qui fait aucun sens. Là. Et de toute façon, il n'est pas passé, puis il n'est pas en état d'être voté. Puis, on veut avoir une élection bien avant l'année prochaine, de toute façon. Fait qu'on espère justement que ce soit cet automne ou plus tard au printemps.
Pierre Paulus, un gros merci.
Merci à vous deux.
Au revoir. Bye-bye. Pierre Paulus, qui est député fédéral de Charlebourg, Haute-Saint-Charles, pour le Parti conservateur du Canada. Il y avait un petit caucus hier. Les gars et les filles se sont parlé pour le plan de match. Puis, c'est ça. Avec les deux partiels d'aujourd'hui, lui, ce que M. Paulus me dit, c'est que dans le secteur de Winnipeg, ils ont des chances de prendre le comté. Puis à Montréal, dans le secteur de La Salle, ça serait vraiment le Bloc québécois qui serait en avance, on en croit les sondages. Donc, Justin Trudeau ferait mauvaise figure encore là aujourd'hui, mais il démissionnerait pas pour autant.
Ouais, mais en même temps, je me dis, bon, s'il démissionne pas, c'est parce que peut-être qu'il sait qu'il va perdre de toute manière aux prochaines élections, puis il dit tant qu'à avoir eu tenu le fort, je ne vais pas encore plus fractionner le parti actuellement. Je le vois pas comme nécessairement quelque chose de totalement néfaste, là, sa stratégie à Justin Trudeau en ce moment. Je comprends que souvent en politique, quand on voit qu'il y a quelque chose qui se... démantèle, on doit quitter le bateau. C'est un message qu'on donne, surtout quand on vient de perdre une élection. On l'a vu avec Philippe Couillard auparavant, puis une couple de personnes. Mais en ce moment, je crois qu'il doit avoir une certaine lucidité quant au sondage, quant à ce qu'il voit sur le fait qu'il risque de le perdre. Fait que tant qu'à le démanteler immédiatement, le parti, peut-être qu'il s'attend à laisser ça outre mesure dans une reconstruction totale pour la suite. Par contre, dans ce que M. Paulus a dit... J'aurais aimé ça lui poser la question si ça fait vraiment une différence avec le NPD qui a lâché son alliance avec les libéraux, autre que dans tout ce qui est administratif et pouvoir, par exemple, dans des votes. Parce que je suis pas certaine qu'il sera aussi fort que ce parti qu'on a connu il y a plusieurs années avant l'alliance. Là. Pas que ça a toujours été fort, mais ça a déjà été plus fort, on s'entend, le NPD au fédéral. J'aurais une belle conversation avec lui dans les prochaines semaines, à savoir est-ce que ça se joue entre les murs de la politique fédérale.
Précisément 13h, on fait une courte pause. Vous avez des choses à nous dire? Vous êtes nos yeux, nos oreilles sur la route, les amis. Quoi que ce soit, par texto 88 971 101, 88 971 101, on vient.